Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima. Nouvelle attaque attribuée aux ZADEF à Massambo dans le secteur de Rwenzori, territoire des Beni, fait 13 morts et des dégâts matériels importants. D'après la société civile locale qui livre l'information, ce bilan est encore provisoire. 7 morts et 14 blessés, bilan du déraillement d'un train marchandise de la SNCC vers Luena dans la province du Lualaba hier dimanche. La cause de l'accident n'est toujours pas connue. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est le professeur Ildefonse Tinyama. Il est coordonnateur du conseil scientifique de l'Agence nationale d'assurance qualité au ministère de l'ESSU. Il nous parlera du système LMD après l'atelier organisé à l'université de Kindu. À cet effet, voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le territoire de Beni, 13 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à ce lundi dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADEF à Massambo, un village du groupement Basongora dans le secteur de Rwenzori. Des dégâts matériels importants ont été également enregistrés lors de cette attaque, indique le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du secteur de Rwenzori qui parle de bilan encore provisoire. André Kitenge.
C'est vers 22h que les assaillants, identifiés comme des ADF, ont attaqué le village Massambo, une dizaine de kilomètres du poste frontalier de Kassindi. Selon le président de la nouvelle société civile congolaise du secteur Rwenzori, 13 civils ont été tués lors de cette attaque et plusieurs autres portés disparus, dont des enfants. Meleki Mulala, qui parle de bilan encore provisoire, indique que les assaillants ont également incendié une dizaine de maisons et pillé des biens de la population, notamment des médicaments dans une pharmacie. Cette situation a causé le déplacement des populations vers des zones jugées plus sécures. Contacté, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, le capitaine Anthony Mwalushai, souligne qu'il réagira incessamment sur cette attaque. Pour l'instant, un calme relatif est observé dans la région, indique notre source. Rappelons que dans la nuit de samedi à dimanche, deux autres civils, un homme et une femme, ont été tués et quatre enfants pris en otage par des hommes armés dans le village Kikingi, toujours dans le secteur de Rwenzori. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Des tueries, on en parle encore, et cette fois-ci en Ituri, en pluie. Bref, 5 personnes ont été tuées samedi soir par des rebelles des ADF au village Idou, sur le tronçon Komanda Luna, dans le territoire d'Irumu. L'ONG de défense des droits de l'homme, CRDH, indique que les victimes sont des hommes qui étaient en quête de vivre pour la survie de leur famille. Son coordonnateur, Christophe Mouniaderou, ajoute que de nombreux déplacés regagnent cette zone, notamment Otmabir et Ndimo, faute d'assistance en vivre dans leur milieu de refuge. Selon la même source, une attaque de ces rebelles contre un convoi de véhicules a été déjouée samedi matin par les FRDC dans la même localité. Cette organisation demande au gouvernement de renforcer l'effectif des militaires pour écarter toute menace de ces ADF contre la population et les usagers de cette route nationale numéro 4. Et puis en Ituri, toujours 14 suspects ont été interpellés et 29 sacs de chanvre saisis au cours du bouclage mené depuis 2 jours par la police dans la commune rurale de Mungwalu à 85 km au nord de la ville de Bunia dans les territoires de Djougou. La société civile locale salue cette action de la police qui vise à réduire les sacs de banditisme, les cas de banditisme et l'infiltration des miliciens de la CODECO dans cette entité. Selon le bourgmestre de cette commune, parmi les suspects, il y a 3 conducteurs de moto et 3 femmes qui sont mises à la disposition de l'auditorat militaire Ezekiel Mouzalia.
Ce bouclage a été organisé depuis samedi dans le but de lutter contre le phénomène Nganda ya Bangui devenu très fréquent dans la zone et l'insécurité due à la présence des hommes en armes à la périphérie de Mungwalu. 14 personnes ont été interpellées, dont 11 vendeurs de chanvre. La société civile locale salue ces coups de filet qui visent à rétablir la sécurité dans cette zone. Chérubin Kukundilawa.
En Djougou, il n'y a pas de champs où on est en train de cultiver les chanvres. Dans la chaîne d'approvisionnement et de vente, il y a des civils ou des porteurs de tennis et des policiers qui sont impliqués. D'où nous allons demander aux autorités de bien vouloir s'impliquer en fait de dénicher. Et pour toutes ces personnes qui seraient impliquées de près ou de loin, c'est surtout que la commercialisation des chanvres en fumée constitue une infraction dans le droit congolais.
De son côté, le bourgmestre de la commune rurale de Mungwalu affirme que des dispositions sont prises pour décourager cette pratique. Jean-Pierre Bikilisende.
Notre jeunesse est en train de mourir à petit feu. Donc nous pensons que nous devons vraiment décourager ce trafic. Ceux-là qui font ces commerces-là, je leur demande de donner à un autre commerce.
Signalons que ce bouclage a été mené avec le concours des représentants des jeunes de Mungwalu. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
En territoire de Rutshuru, la psychose reste perceptible dans la région de Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda ainsi que le village environnant en groupement Djumba. Ce lundi, les activités tournent au ralenti. Une grande partie de la population reste dans leur lieu de refuge en Ouganda et en groupement Busanza où elle s'est rendue à nouveau hier dimanche, Sifa Maguru.
D'après le chef de groupement de Djumba, la situation n'est pas du tout rassurante dans la région. Les habitants qui avaient pris l'initiative de regagner le village après les affrontements en début de la semaine passée sont repartis hier dimanche à la suite des rumeurs faisant état d'une probable reprise des affrontements. Le président de la société civile de Bunagana affirme pour sa part que les activités socio-économiques tournent à 5%. À Bunagana, même si c'est lundi, le trafic est ouvert tant sur la frontière que sur l'axe Rutshuru, la population, par précaution, préfère garder les familles dans des lieux sûrs en Ouganda et dans d'autres milieux comme Busanza. Des villages tels que Nyarubara, Cheya, Gasizi et Ruginga sont quasi abandonnés à cause de la présence des combattants du M23. Ce dernier demanderait à la population de se mettre à l'abri, indique notre source. Cependant, un calme apparent s'observe du côté des routures au centre. Bien que les activités tournent normalement, mais toute l'attention demeure focalisée vers Bunagana. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Autre nouvelle, à Bouindé, dans la province de la Chuapa, la population s'est dit délaissée. Elle dénonce la persistance de l'insécurité dans la ville par des jeunes, communément appelés Kuluna, depuis le meurtre de l'ancien ministre provincial de la Jeunesse. Dans certains quartiers, les activités socio-économiques tournent au ralenti par crainte de ces jeunes. Ils font la loi en blessant ou ravissant des biens à leurs victimes. Mais le gouverneur de la province a annoncé ce week-end, Paul Richard Malengela, des mesures draconiennes en vue de mettre fin à ce phénomène.
L'insécurité est encore persistante dans certains quartiers de Bouindé, affirment des témoins, notamment au quartier Bouindé 2 Sele, Bouindé 2 Kimbangu et Mustapha, ainsi que le long de la route menant à la mission catholique de Baliko, où a été enterré le corps du ministre assassiné Gervais Bansambi. Nuit et jour, précise nos sources, des jeunes incontrôlés bases munis d'armes blanches circulent ouvertement à travers la ville. Ils s'attaquent aux passants jusqu'à les blesser, soit leur ravissent de l'argent, des vivres ou d'autres biens de valeur. Conséquence, un corps sans vie d'un jeune garçon d'environ 15 ans a été retrouvé la semaine dernière. Certains habitants ont carrément cessé leurs activités socio-économiques. Plusieurs paysans de Baluko ne viennent plus approvisionner la ville en denrées alimentaires. Par ailleurs, aujourd'hui à Bouindé, la circulation ne s'arrête qu'à la tombée du jour. Les mototaximens les plus visés par ces bandits ne conduisent plus après 18 heures, craignant pour leur sécurité. Alors, fini la récréation, a annoncé samedi dernier le gouverneur de province. Pancras Bongo a mis en garde les parents dont les enfants se livrent à cette insécurité de les retirer. Car leur traque va bientôt débuter, a-t-il dit, et ceux qui seront arrêtés seront transférés à la prison militaire d'Angenga, dans la Mongala, en vue de subir la rigueur de la loi. Bondaka, proche Malengela, Radio Okapi.
Et puis, cette nouvelle, il ne sera plus question de détenir à la prison centrale de Makala des prévenus, seulement des condamnés. La ministre d'État et ministre de la Justice en a ainsi décidé à l'issue d'une séance de travail le week-end dernier avec les deux parquets généraux de Kinshasa, Gombe et Matete. Rose Mutombo a donné des instructions pour désengorger la prison. Selon le constat fait après une visite d'inspection à la prison et dans tous les parquets de Kinshasa, sur 8889 personnes incarcérées à Makala, 4271 sont des détenus en situation préventive. La ministre promet des sanctions contre les magistrats Jeff Ngoyi qui entretiendraient ces anomalies.
Plusieurs anomalies sont décelées dans les registres tenus par les magistrats à la suite d'un contrôle effectué à la prison centrale de Makala depuis 3 mois par des équipes mises en place par la ministre. Il y a environ 2030 prévenus qui attendent leur dernière décision au niveau des cours et tribunaux et il n'y a que 2026 condamnés qui sont en train de purger leur peine. Sur la population carcérale de la prison centrale de Makala, on a plus de 6000 personnes qui ne connaissent pas encore leur sort au final. C'est pourquoi j'ai demandé aux deux procureurs généraux de mener des inspections pour désengorger la prison centrale de Makala. Je l'ai dit parce que le gouvernement dépense beaucoup d'argent pour des personnes qui peuvent être condamnées ou libérées, indique Rose Mutombo. Selon la ministre, même si on applique la grâce présidentielle et la libération conditionnelle, étant donné qu'on n'a que 2030 condamnés, cela ne serait que sur ce quota qu'on pourra accorder la libération conditionnelle et la dite grâce. À cette allure, à en croire la ministre, on ne saurait jamais désengorger la prison. Sinon, des sanctions vont tomber, martèle la ministre qui a écrit au premier président de la Cour de cassation pour instruire toutes les juridictions de liquider les différents dossiers qui sont pendants à leur niveau.
Un train marchandise de la SNCC partant de Teke dans le territoire de Louboudi, province du Lualaba, vers Luena, a connu ce dimanche un déraillement. D'après l'administrateur du territoire de Louboudi, le bilan provisoire fait état de 7 morts et de plusieurs blessés. Jean Gandou, jusqu'à présent, les causes de cet accident ferroviaire ne sont pas encore révélées par la SNCC.
C'est ce dimanche aux environs de 19h que le déraillement s'est produit à Bouyofoué, localité située à 25 km de Louboudi centre. D'après l'administrateur du territoire de Louboudi, Clémentine Matanda, le bilan provisoire est de 7 morts et de 14 blessés. 5 d'entre les blessés sont internés dans un centre de santé de Bouyofoué. Une équipe de médecins a déjà quitté Louboudi centre et se dirige vers le lieu de l'accident. D'après l'autorité territoriale de Louboudi, l'état défectueux de la route ne permet pas de transporter les malades jusqu'à Louboudi centre ou à Luena. Ainsi, elle envisage de prendre langue avec les responsables de la SNCC pour voir si ces blessés peuvent être pris dans le train et amenés soit à Luena ou à Louboudi pour leur prise en charge. Notons que cet accident ferroviaire est le deuxième en l'espace d'un mois dans le territoire de Louboudi. Le premier qui s'était produit le mois dernier au village Kitenta avait causé la mort de 73 personnes et les blessés étaient au nombre de 128. Tous nos efforts pour avoir les autorités de la SNCC en vue de connaître les causes de ce déraillement n'ont pas abouti. Toutefois, lors du premier accident, la SNCC avait indiqué que ceux qui étaient à bord des wagons étaient des clandestins car ils ne devraient pas se retrouver sur un train marchandise. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
On revient ici à Kinshasa, difficile de s'approvisionner en carburant, particulièrement en essence depuis le week-end dans la ville. Plusieurs stations-service ne vendent pas du tout, ou alors uniquement du mazout. Là où l'essence est disponible, c'est des longues files de véhicules qui débordent jusque sur la chaussée. Conséquence de cette situation, plusieurs Kinois ont du mal à se déplacer. C'est un reportage de Sandra Sifa.
Pour beaucoup de Quinois, se déplacer ce lundi avant midi est un véritable calvaire. Suite à la pénurie de carburant, plusieurs chauffeurs ont majoré le prix de la course. C'est ce que déplorent certains Quinois.
Le transport est tellement difficile. Généralement, quand on prend une moto de Gramalik à magasin, c'est 1000 francs. Aujourd'hui, c'était 1500. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais arriver au bureau.
Laste d'attendre et ne disposant pas d'assez d'argent pour faire le demi-terrain, certains ont sacrifié travail et affaires. Ils ont rebroussé chemin.
Moi, je rentre à la maison déjà parce que le transport est tellement difficile. On dit que c'est le problème du carburant.
Je suis vraiment fatigué d'attendre, vraiment fatigué, parce que ça fait 3 heures du temps depuis que nous étions en train de marcher. J'ai marché de Salongo jusqu'à Lemba et arrivé à Lemba, j'ai attendu et attendu encore. Le prix du transport ne fait qu'augmenter, c'est vraiment pitoyable. Carrément, je suis rentré à la maison parce que je n'ai pas d'argent à dépenser comme ça. Il n'y a pas moyen de se déplacer, il n'y a pas moyen d'arriver au boulot, c'est vraiment compliqué.
C'est depuis samedi que plusieurs stations-service n'ont pas du carburant sur tous les sens. Depuis ce matin, les files de véhicules sont longues devant les points de vente qui en disposent.
Publication ce week-end par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de la liste provisoire des candidats au poste de gouverneur dans 13 provinces de la République démocratique du Congo. Cette liste qui reprend 102 candidatures sera affichée aux secrétaires exécutifs provinciaux de cette institution. Déjà, quelques voix s'élèvent à la suite des candidatures débarquées à cette course. D'après la loi électorale, 4 jours sont accordés par la CENI pour l'ajout, la substitution ou le retrait des candidatures externes dans la finale.
Les 102 candidatures au poste de gouverneur dans les 13 provinces concernées par l'élection ont été publiées ce samedi par la Commission électorale nationale indépendante CENI. La province de l'Ituri, qui attendait aussi connaître ses candidats à cette élection, n'a pas été retenue suite à l'état de siège qui y a été instauré par le gouvernement congolais depuis le 3 mai et prorogé jusqu'à ce jour. Cette publication ouvre la voie à la période de contentieux de candidatures selon la loi électorale. À cet effet, le calendrier réaménagé de la CENI prévoit de ce lundi 4 au 5 avril le dépôt des recours en contestation des listes provisoires devant les cours administratives d'appel. Le traitement des contentieux aura lieu du 6 au 12 avril, tandis que du 13 au 17 avril, les cours administratives enverront des notifications des arrêts à la Commission électorale nationale indépendante. La publication de la liste définitive intervient le 21 avril. 2 jours de campagne sont prévus du 2 au 4 mai prochain et le vote proprement dit des gouverneurs et vice-gouverneurs par les députés provinciaux, suivi de l'annonce des résultats par la CENI, intervient le 6 mai prochain.
Actualité internationale.
Au Sénégal, le président Macky Sall s'est adressé à la nation à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance du pays. Alors que les musulmans ont entamé ce dimanche 3 avril le ramadan et que les chrétiens sont en plein carême, le chef de l'État a insisté sur les enjeux du prix de denrées et de l'autosuffisance alimentaire. Après 2 ans sans célébration pour cause de Covid, une cérémonie de prise d'armes est suivie d'un défilé militaire petit format à la place de l'indépendance commémorera ce lundi 4 avril le 62e anniversaire du Sénégal. Mais le discours du président Macky Sall était surtout un appel au rassemblement dans un contexte d'augmentation des prix liés à la guerre en Ukraine.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le professeur Idelfonse Tinyama, coordonnateur du conseil scientifique de l'Agence nationale d'assurance qualité du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'exprime sur la télé organisée à l'université de Kindu Manima sur le système LMD. Le professeur Tinyama Idelfonse est interrogé par Florence Kizalunga. Suivez.
Professeur Tinyama Kadima Idelfonse, bonjour.
Bonjour madame.
Vous venez d'animer un séminaire de formation sur les LMD à l'université de Kindu. Peut-on savoir qu'est-ce que ce système LMD va changer dans le fonctionnement de cette université publique de l'État?
Bon, il s'agit pas de changer le fonctionnement simplement de l'université de Kindu, mais c'est une réforme qui est en cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire dans sa globalité. Et donc, il était question avec le corps scientifique, le corps académique, le corps administratif de l'université de Kindu, de voir comment on donne certaines informations, notamment basiques, sur le fonctionnement de ce nouveau système d'enseignement qu'on appelle LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Durant les 3 jours, on devait comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de cette réforme, comment on va enseigner, comment on va délibérer, comment les étudiants vont commencer à s'en sortir dans leurs études, et éventuellement comment le comité de gestion va gérer l'institution autrement. Mais évidemment, comme je suis membre de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'ESU, j'en ai profité pour donner quelques concepts de base d'assurance qualité.
Enseigner autrement, faire les recherches et même gérer autrement. Concrètement, ça veut dire quoi?
Bon, au fait, la nouvelle réforme fonctionne avec l'approche par compétences. Et donc, l'idée, c'est de dire quelle est la pertinence de la formation qu'on donne. En fait, les programmes ne sont plus élaborés selon l'ancien système où les enseignants se mettaient ensemble et désignaient des enseignements qu'il fallait mettre. Donc, où on était centré sur la matière. Mais ici, on est vraiment centré sur les compétences à développer chez les étudiants. Et pour ça, les programmes ne s'élaborent pas n'importe comment, ça s'élabore par approche qu'on appelle l'approche par compétences, c'est-à-dire, mais on forme pour quel métier? Et ce métier exige quel type de compétences? Et pour réaliser ces compétences, quel est le contenu des enseignements? Et donc, en ce moment-là, on comprend effectivement que au cœur de cette réforme, il y a la notion de l'employabilité. Nous voulons former vraiment des employables, mais pas simplement des employables, mais aussi des étudiants créateurs d'emplois. Mais nous n'ignorons pas non plus notre mission fondamentale de l'université qui est de produire la recherche fondamentale.
Partant des exemples, que faisaient les étudiants dans l'ancien système et qu'ils ne doivent plus faire dans cette nouvelle réforme?
Bon, maintenant, la formation n'est pas centrée sur le contenu des enseignements, mais surtout ce dont est capable l'étudiant à réaliser comme action à partir des apprentissages qui lui permet d'exercer un métier précis dans la vie. Et donc, toute la démarche commence par effectivement identifier quels sont ces métiers pour lesquels on forme l'étudiant et ces métiers exigent quel type de compétences. Et donc, ces compétences pour les réaliser, comme je l'ai dit, exigent quel type d'enseignement. Et donc, on est vraiment dans un apprentissage par compétences. L'idée, c'est vraiment de faire de l'enseignement, comment on fait pour que l'enseignement devienne un pilier du développement. Comment on fait que notre université se transforme en une usine de production de compétences qui sont recherchées sur le marché de l'emploi? C'est l'importance de cette réforme. Donc, on ne forme plus pour former. On forme selon un profil de sortie. Ce profil de sortie, c'est vraiment de macro-compétences qu'ils réalisent au travers les apprentissages pour arriver à réaliser ou exercer un métier donné. C'est pourquoi maintenant, quand on dit étudier autrement, ça veut dire effectivement qu'on inverse les statuts. c'est-à-dire le prof n'est plus l'acteur central de l'enseignement. C'est plutôt l'étudiant lui-même qui doit être au cœur de sa formation.
Un message pour ceux-là qui doutent encore.
Non, écoutez, c'est pas la première réforme au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Il y a déjà eu autant de réformes. Et donc, chaque réforme amène son lot de résistances. Mais ce qui compte, c'est que nous puissions expliquer de manière plus ou moins claire les tenants et les aboutissants de ce système pour que la communauté universitaire, la communauté étudiantine comprenne l'importance ou la quintessence justement de cette réforme.
Professeur Chinyama Kadima, merci.
C'est à moi de vous remercier, madame.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Alain Ngoy. Merci à Alain Irung qui l'a coordonné et qui l'a supervisé. Merci également à vous de nous avoir suivis.